Verset 1. Jean 3, 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, pas les parisiens, hein, vous savez, ceux qui plantent des graines et puis qui. Vous vous rappelez, c'est pour ceux qui ont écouté vendredi. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, un religieux donc, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et il lui dit « Rabbi », c'est-à-dire « maître ». Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous pouvez vous asseoir. Alors la réputation de Jésus grandissait parce qu'il faisait des miracles extraordinaires, des gens étaient transformés et c'était une réputation telle que un homme qui professait être pharisien Et donc, il occupait un haut rang. Il était un gouverneur des Juifs. Il est venu pour rencontrer Jésus et pour le questionner. Bon, il est venu de nuit et c'est quand même assez significatif. Cet homme était poussé par un désir sincère, c'est vrai, d'en savoir plus, c'est vrai, sur Jésus, dont on ne pouvait pas ignorer les œuvres, mais... l'orgueil de son office, n'est-ce pas? Et puis aussi la peur qu'on pourrait supposer que peut-être il s'est engagé à suivre ce nouveau prophète, ce nouveau bonhomme-là qui est en train de dire des trucs. Parce que c'est comme ça que les gens le voyaient, hein? Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui parcouraient les chemins et qui disaient « Un homme avait deux fils ». À la fin, les gens disaient « Encore !» Parce qu'il y en avait plein qui racontaient des histoires, qui allaient un peu partout. Mais ce Jésus-là, il avait des miracles avec lui. Et tout ça, ça a conduit Nicodème à entourer sa rencontre avec Jésus du plus grand secret. Plusieurs autres juifs, plusieurs notables, plusieurs prêtres, il n'y avait pas que Nicodème, mais il y avait eu d'autres prêtres qui croyaient en lui, mais eux, ils n'ont pas eu assez de courage pour venir, même de nuit, hein, ils ne sont pas venus pour s'informer. Pour savoir d'une façon indépendante et personnelle. Les autres qui croyaient en lui craignaient quand même aussi de perdre leur popularité, leur position, n'est-ce pas? Ce Jésus n'avait pas fait d'études, Dans Jean 12, 42-43, il est dit « Parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des religieux, n'est-ce pas, ils ne confessaient pas, c'est-à-dire ils ne disaient pas. Il ne confessait pas, il ne disait pas, afin de ne pas être exclu de la synagogue, parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça, c'est un grand problème. Beaucoup de gens nous aiment beaucoup, mais voilà, s'ils quittent leur truc pour venir avec nous, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il est avec Jean-Ton, le faux prophète. Souvenez-vous, il y avait un scribe aussi qui était venu une fois, et il voulait devenir disciple, mais bon... il était découragé quand il avait vu combien ça coûtait. Parce qu'il fallait tout donner, il fallait tout abandonner. Mais bon, c'était un peu trop, donc voilà. Il avait abandonné, il avait laissé tomber. Donc il y avait des religieux qui le prenaient au sérieux, mais quand même pas au point de s'engager. Revenons à Nicodème. Nicodème, il décerne à Jésus le titre qu'il portait lui-même. C'est-à-dire, c'est un titre qu'il considérait lui-même comme honorifique, c'était pas rien, n'est-ce pas? Rabbi, c'était un titre d'honneur, une expression extraordinaire. Rabbi, lui, rabbi, maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oui, au moins, lui, il était intelligent, il savait discerner. Nicodème, il dit, nous savons. Est-ce qu'il parlait des autres, de ces co-religionnaires, des autres chefs religieux dont la Bible nous parle dans Jean 12, ou bien est-ce que Nicodème parlait comme Alain Delon à la première personne du pluriel, je ne sais pas. En tout cas, il reconnaissait Jésus comme un docteur venu de la part de Dieu. Et puis il donne même les raisons pour lesquelles il le considère comme un docteur venant de Dieu. Parce que, voilà, nous savons, parce qu'il y a des preuves, on voit, voilà, c'est tout. Sa foi, elle était basée sur des preuves fournies par les miracles. Nicodème était sincère et son intervention, son intention était honnête. C'était honnête. Il pose pas de questions, il fait juste une déclaration polie pour montrer où il en est, n'est-ce pas, ce qu'il croit, ce qu'il pense et tout. Il pose pas de questions et la Bible nous dit Jésus répondit. Bon, alors il répond avant d'avoir des questions. Il n'a pas eu le temps de poser une question particulière que Jésus se met à lui parler, lui dit « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Mais pas question de le voir. Et voilà notre Nicodème tout embarrassé. Il est dirigé dans une conversation, il avait peut-être d'autres questions à poser, mais là, c'est vraiment bizarre. Alors il se dit « mais comment est-ce qu'un tel rajeunissement peut avoir lieu ?» Et mes frères et sœurs, en qualité de rabbi, de maître, il aurait dû avoir la sagesse de penser qu'il y avait quelque chose d'autre comme signification. Il y avait une autre signification. Il aurait dû faire une glissade pour pouvoir comprendre que Jésus parlait pas simplement sur le d'une façon littérale de la naissance. Il pose une question, il dit comment un homme vieux peut naître. Vous voyez, tout de suite, il pense à lui, hein. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Frise de ridicule. Et Jésus lui répondit des choses extraordinaires. Il lui parle de la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit. Et Nicodème demande, mais comment cela peut-il se faire? Il veut savoir s'il y a une recette, s'il y a un rite, s'il y a n'est-ce pas, quelque chose d'un peu magique, n'est-ce pas, puisque Dieu, ce Jésus fait des miracles, il y a peut-être quelque chose de miraculeux là-dessous. Et sa question, elle peut vouloir dire aussi ceci. Et même si un homme naît une deuxième fois dans la chair, comment une pareille naissance, une telle naissance, pourrait-elle lui profiter dans sa croissance spirituelle? Ça peut vouloir dire ça aussi, sa question. Parce qu'en fait, naître de nouveau, ben, ça serait une nouvelle entrée, n'est-ce pas, dans le système physique. Ce ne serait pas forcément une avancée dans le spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se fait? Bon, il savait aussi une autre chose, Nicodème. C'était un religieux, c'était un juif. Il connaissait des choses qu'aujourd'hui, dans nos milieux, on a peut-être un peu oubliées, mais il suffit de connaître quelques juifs pour savoir que c'est comme ça. Et c'était déjà du temps de Jésus, de la même manière. Si un non-juif veut devenir juif, c'est-à-dire s'il veut, n'est-ce pas, être au bénéfice de toutes ces bénédictions qui sont réservées à l'héritage de la maison d'Israël, eh bien, il doit naître de nouveau. C'est-à-dire, il doit naître, et comment naît-il? Eh bien, il naît en acceptant officiellement le judaïsme publiquement avec des rabbins qui sont là, qui l'ont instruit, etc., etc. Et seulement, là, il y avait un problème, c'est que Jésus mettait tout le monde dans le même sac, sur le même pied, c'est-à-dire les juifs aussi bien que les païens. Si un homme ne naît pas d'eau d'esprit, mais attends, tu es en train de me dire un homme juif aussi? Si, juif aussi. Les érudits aussi, oui, les érudits aussi, aussi bien que les petits ploucs que tu méprises là. Hein. Tout le monde, on doit tous passer par là, nous les hommes, les femmes, naître de nouveau. Tout le monde doit naître de nouveau. Puis Jésus qui lisait dans les pensées, il répète sa déclaration avec une plus grande précision encore. Il souligne, n'est-ce pas, cela en disant « en vérité ». Hein. Et voilà qu'il donne la plus belle déclaration que Dieu n'a jamais donnée sur cette terre. En passant, vous voyez que notre Nicodème, il n'est pas stupide. Non, il n'est pas stupide. Mais il réfléchit. Il ne réfléchit qu'avec les données qu'il a lui-même. Il n'a pas d'ouverture. Il est fermé. Il ne réfléchit qu'avec les idées qu'il a lui-même. Comme tout le monde, d'ailleurs. comme tout le monde. Il est croyant, mais il n'est pas spirituel. Il est humble, mais il n'est pas spirituel. Il est sincère, mais il n'est pas spirituel. Et Jésus parle avec des mots humains qu'on peut comprendre, des choses spirituelles de la plus haute importance. On peut comprendre intellectuellement, mais en expliquant à fond, avec petit A, petit B, peut-être qu'au bout d'un moment on comprend. Mais il faut être spirituel pour en saisir l'essence. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Cette nouvelle naissance, c'est la condition essentielle pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et cette condition, elle est applicable absolument à tout le monde, sans limite et sans aucune modification possible. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il s'agit d'une régénération spirituelle. Dans le mot régénération, il y a le mot genèse, une création spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, c'est une nouvelle naissance, vous êtes une nouvelle création. Ce qui est né de la chair, c'est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ne t'étonne pas, il lui dit, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, notre Nicodème fronce ses sourcils, n'est-ce pas? Il se concentre, il réfléchit, mais il comprend pas. Parce que ce n'est que spirituellement qu'on juge des choses de l'esprit. Mais on peut pas juger des choses de l'esprit quand on est né de la chair. Et on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, même si on est croyant, mais qu'on veut raisonner avec notre chair. Parce que ce n'est que spirituellement qu'on juge des choses de l'esprit et du monde de l'esprit. Et lui, il réfléchissait intelligemment, c'est vrai. C'est pas que l'intelligence c'est nul, c'est pas que l'intelligence c'est mauvais, mais si elle n'est pas renouvelée spirituellement, ben elle est charnelle. Elle est valable pour les choses de la condition mortelle, on peut aller jusqu'à un certain point de compréhension, mais ça se bloque à un moment donné. Et puis ça n'aide personne au sujet des choses de l'esprit, ça n'aide personne. Vous savez quel est le plus haut niveau de compréhension des choses de Dieu qu'on peut avoir ? Avec le secours de la chair, bien le plus haut niveau qu'on peut avoir avec le niveau de la chair, c'est la compréhension des doctrines. Ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Les doctrines sont nécessaires, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est ce que Jésus cherche à faire comprendre à Nicodème, qui est un intellectuel. On n'aborde pas les choses sacrées concernant l'esprit et les choses du monde de l'esprit avec de la doctrine. Bien sûr, il y a des doctrines. Bien sûr, mais il faut aller au-delà. Et pour ça, il faut être ouvert. Il faut pas être coincé. Il faut pas être serré en soi-même. Il faut être ouvert. Il faut être plus que humble. Il faut mourir pour naître de nouveau. Alors, la doctrine, elle peut t'aider, mais souvent, surtout ce qu'elle fait, elle freine tout. Et puis même, elle met les gens les uns contre les autres. Alors, à mon avis, connaissant Jésus comme je le connais et écoutant ses chuchotements, c'est pas facile à dire. À mon avis, comme je le connais, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, dans le silence de la nuit, c'était là, dans une maison, dans le silence de la nuit, il y a eu un ange passe, un moment de silence, et puis on a entendu le bruit de la brise nocturne qui s'est fait entendre. Et Jésus se sert de cet incident comme font tous les bons maîtres qui sont habiles à enseigner de façon frappante. Alors il se sert de ça, il dit, le vent qui souffle, il souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ton savoir est limité. Et il y a plus que ça, il en est de même pour tout homme né de l'esprit. En d'autres termes, Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème que sa science profane et même sa science religieuse, et puis son office, n'est-ce pas, son rang, tout ça, ça ne lui sert à rien pour comprendre les choses de l'esprit. Il lui dit par exemple le sens de l'ouïe. Voilà, ça te permet de savoir qui souffle. Hein, t'as entendu? Tu sais qui souffle. Ta vue, elle te permet d'avoir l'information du passage du vent, tu vois les arbres qui bougent, ils soufflent. Mais Nicodème, qu'est-ce que tu sais de la cause ultime de ce phénomène qui est pourtant tout simple? Qu'est-ce que tu sais de ça? C'est ce que Olivier nous a prêché tout à l'heure en nous disant, est-ce que tu étais là quand j'ai mis les limites à la mer et tout ça? Qu'est-ce que tu sais quoi? Et si Nicodème désirait réellement s'instruire des choses de l'esprit, il devait commencer par se débarrasser de la déformation due à la connaissance des choses moins importantes. Ça ne veut pas dire que il faut se débarrasser de toute notre connaissance intellectuelle. Non, non, il ne faut pas se débarrasser de toute notre... Mais il y a des choses moins importantes que les choses de l'esprit et qui nous bloquent parce qu'on n'arrive pas à comprendre les choses de l'esprit parce que ces choses-là nous paraissent importantes. La doctrine. Hein, ou parler avec n'importe quel religieux, c'est ça. La doctrine. Alors, eh oui, mais moi aussi j'ai des doctrines. Mais puisqu'ils ne les comprennent pas, elles deviennent inévitablement à leurs yeux fausses. C'est tellement plus simple. Et puis, ils en sont tellement fiers de leur doctrine. Et puis, ça les rassure tellement. C'est tellement carré, c'est tellement clair, c'est tellement juste, c'est tellement... Ouais, viens nous déranger, là. Alors, Jésus lui explique que lui-même, il dit, moi, Jésus, je parle de ces choses parce que je les connais. Je sais ce que c'est. Il est à deux doigts de lui dire, je les ai créées, alors je les connais, hein. Mais il dit pas, il se retient. Il lui dit, ce qui est de la chair, ce qui est né de la chair, c'est chair. Et puis, vous et moi, nous sommes nés dans ce monde. Notre père, on le connaît. Notre mère, on le connaît. On est né de la chair. Et même si vous ne connaissez pas vos parents, vous pouvez être sûr, vous n'êtes pas né d'autre chose que votre père et votre mère. Et selon la chair, on sait quoi? Ben, qu'on vient de nos parents, qu'on va vivre un temps, et puis qu'on va mourir. Quand je rencontre quelqu'un, ou quand vous rencontrez quelqu'un qui est né de la chair et qui vous regarde, vous qui êtes né de nouveau, si quelqu'un né de la chair me regarde, ben il est un petit peu comme Nicodème qui regarde Jésus. C'est-à-dire, il pense, oui, je sais, tu es né, Michel Janton, de Charles-Édouard Janton et de Madeleine Janton, tu es né à Lausanne, le 5 février 1950, et puis il peut raconter des histoires sur moi, il connaît, mais tu mourras. Eh ben, il a tort. Il peut pas voir autre chose. Il peut entendre le bruit du vent, il peut voir les effets du vent, c'est-à-dire il peut voir ce qu'il peut voir de moi, mais il sait rien d'autre, rien de plus que ce qu'il peut voir avec ses sens, avec son intelligence. Il est limité. Et puis il y a des gens qui ont réfléchi un petit peu, puis qui se disent, oh, il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous, hein. Alors, il y a des gens qui sont nés de la chair, et qui savent que vous êtes nés de la chair et que vous mourrez, mais ils se sont inventés des histoires extraordinaires. Alors non, tu es avant ta naissance, tu étais autre chose, hein, tu es là actuellement la réincarnation de Napoléon. Hein, vous êtes toujours la réincarnation de quelqu'un d'extraordinaire. Il y a au moins 170 000 personnes qui se vantent d'être la réincarnation de Napoléon. Il y a juste Paco Rabanne qui a eu le fin nez de dire « Non, moi je suis la réincarnation d'une prostituée. » Ça ne s'était jamais fait encore. Hein. Et puis voilà, où tu es la réincarnation de l'escargot qui fait « Oui !» Tu es la réincarnation de quelque chose. Et tu mourras et tu te réincarneras en limace à bouffiltre ou en vache normande, mais tu te réincarneras, puis c'est comme ça que ça suit, n'est-ce pas, suivant le bien ou le mal que tu as fait. Alors, ils semblent savoir, ces gens, hein. Ils semblent savoir d'où tu viens et d'où tu vas, et comme le vent, ils savent, ils ont l'air de savoir, mais ce sont que des mensonges. Et ils sont persuadés que c'est la vérité parce que ils se sont tellement répété ça entre eux qu'ils y croient finalement. Hein, mensonge, plus il est gros, alors, et puis plus on le répète, finalement, ça devient la vérité. Et ils pensent que toi, qui es né de nouveau, par l'esprit de Jésus, ben, tu te racontes des sornettes comme eux-mêmes s'en racontent. Ils veulent avoir raison sur toi. Alors, mais qui a raison? Alors, laissons ça de côté, revenons à Nicodème. Jésus est là, face à Nicodème, et puis ils sont éclairés parce que la nuit est vraiment tombée, là, il fait vraiment nuit noire, et puis il y a juste une petite lampe à huile qui fait une petite lumière qui tremblote, et puis Jésus regarde Nicodème, et puis il lui sourit, ça fait rire un peu Jésus tout ça, parce que ça serait tellement facile pour lui de lui ouvrir l'intelligence pour qu'il comprenne d'un coup, mais il a fait un pacte avec le Père qu'il ne ferait pas ça, donc il ne le fait pas, il ne va pas le forcer à croire. Le plan de Dieu, c'est que ça doit d'abord être par la foi qu'on s'approche de Dieu. Ensuite, une fois que tu as montré que ta foi est humble, eh ben, il t'éclaire miraculeusement, mais jamais avant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et pour toutes les étapes de ta vie, avec les choses de l'esprit, Dieu veut ta foi d'abord. Pas seulement ta foi bien, bien cachée en toi, mais ta foi confessée. Hein? On a vu tout à l'heure le mot confesser. Confesser, c'est pas seulement dire raconter ses péchés. Confesser, c'est dire comme. Il faut que tu exprimes ta foi, que tu la confesses. Et ensuite seulement, publiquement, et ensuite seulement, il t'éclairera. Oh là 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 là. Mais oui, mais avec Jésus, tout marche comme ça. Il faut d'abord croire que tu as reçu, puis tu le verras s'accomplir. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et il dit ces choses-là à ce pauvre Nicodème qui le regarde la bouche ouverte. Et aujourd'hui, je vous dis ces choses et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Je dis ça pour vous aider. Un homme ou une femme née de l'Esprit vient de Dieu et retourne à Dieu. Il y a que les gens qui ont foi en Dieu qui peuvent croire ça. Parce que tout simplement, c'est écrit. Tout ce qui est écrit est digne de notre foi. Absolument tout. Un jour, on a été comme Nicodème. Un jour, nous étions devant Jésus et puis nous avons décidé, moi j'ai décidé de croire et d'ouvrir mon cœur, d'avoir foi en lui, mais je n'avais aucune preuve. Et je ne savais pas où il allait m'emmener et je ne savais pas exactement quoi je croyais. Je ne savais pas rien. Aucune doctrine en tout cas. Et suite à cet acte, parce que la foi c'est un acte, j'ai confessé publiquement, je me suis avancé, il y avait 600 personnes, je suis allé devant confessant publiquement que j'avais foi en Jésus-Christ, j'avais aucune preuve, j'avais encore pas vu de miracle. C'est seulement un moment après que les miracles ont commencé. Eh bien, parce que nous avons fait un acte de foi, Jésus par la suite nous a éclairés, et mes frères et sœurs, chaque jour, nous sommes un petit peu comme Nicodème, parce que nous avons à renouveler notre foi en Jésus, parce que nous n'avons pas tout compris le premier jour. Et si tu es fidèle à agir de cette manière-là, il t'éclairera de plus en plus sur les choses de la vie mortelle, mais aussi sur le monde des esprits, les anges, les démons, les morts. Mais d'abord, tu y crois par la foi. Tu déclares y croire par la foi, sans preuve, sans explication, c'est écrit, j'y crois. Jésus l'a dit, j'y crois. C'est un petit peu comme, dis que je vienne et je viens marcher sur l'eau. Eh bien, viens, et il marche. Vous voyez? Et puis, Dieu ouvre ton esprit, et voilà que tout d'un coup, tu sais. Et tu te dis, mais comment j'ai fait pour ne pas comprendre avant? C'est exactement Simone, hein? Un jour, ça, voilà, et boum. Et puis, ah, mais maintenant, je comprends tout ce que tu dis, Michel. Là, je comprends tout ce que vous dites. Ben oui, parce que Dieu ouvre notre esprit à ce moment-là, quand il rencontre la foi. Dieu ne fait rien autrement. Rien, rien, rien. Nicodème, il a sans doute été touché ce soir-là, mais comme on dit, touché, c'est pas coulé, hein. Touché, c'est pas coulé. Il a fallu qu'il renonce à lui-même, à son orgueil, à sa peur. Et ça a été tout un cheminement. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne jette pas la pierre à ceux qui cheminent tant qu'ils sont en marche. Quand ils s'arrêtent de marcher, ceux qui cheminent, je leur fiche un petit coup de pied comme ce matin pour les aider à se remettre en marche. Il faut cheminer et Nicodème a cheminé et Jésus l'a laissé cheminer. Et regardons un peu le cheminement de Nicodème, son comportement nous montre qu'il croyait. Il croyait que Jésus était un envoyé de Dieu, un docteur envoyé de Dieu. Mais on voit aussi que ses croyances religieuses l'empêchaient de devenir un disciple soumis. Alors, voyons-le, ce Nicodème qui chemine. Un jour, les chefs des prêtres étaient en train d'engueuler les huissiers parce qu'ils avaient envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Puis les huissiers n'ont pas réussi à l'arrêter. Ils reviennent tout penauds et puis ils rapportent leur échec et puis Nicodème est là, et puis c'est un membre du conseil, c'est un membre du conseil, alors il se hasarde timidement, n'est-ce pas, à s'opposer à la détermination meurtrière du gouvernement religieux. Il essaye, n'est-ce pas? Alors, il formule une proposition très générale, hein, sous forme interrogative. Vraiment, il met pas du punch, hein, dans son cheminement. Il est mollo, là, c'est un peu comme l'escargot, mais il dit pas oui, celui-là. Non. Il va tout doucement, hein. Une proposition générale sous forme interrogative. Il dit, notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu? Ou qu'on sache ce qu'il a fait? Et tout de suite, les autres le réprimandent avec mépris, n'est-ce pas? Alors notre Nicodème semble abandonner ses efforts et puis on n'entend plus parler. Voilà, terminé. Plus tard, bien un peu plus tard, on le voit apporter une contribution coûteuse, hein, de myrrhe et de, je sais plus quoi, d'aloès, je crois. Et puis, c'était pour l'ensevelissement de Jésus, mais il avait été devancé, hein, par Joseph d'Arimathie. Son acte pourtant généreux et son acte de dévotion, ben, il avait été précédé par Joseph d'Arimathie, un homme aussi de haut rang. En effet, Joseph d'Arimathie avait hardiment demandé et obtenu le corps de Jésus pour l'ensevelir. Nicodème, non. Pourtant, quand même, on aurait bien aimé que ça soit Nicodème. Hein. Mais bon, on peut dire qu'il a quand même fait plus que la plupart, que la grande majorité de ses collègues croyants parmi les nobles et les grands. Donc, il ne perdra pas sa récompense, on le retrouvera sans doute avec nous dans le royaume de Dieu. Mais quel dommage! Et que de temps perdu entre Jean chapitre 3 et l'ensevelissement de Jésus. Que de temps perdu! Que d'occasions manquées, que de belles choses il aurait pu vivre et puis qu'il n'a pas vécu. Il se tenait, comme disait notre frère Olivier tout à l'heure, il se tenait éloigné. Hein, et Olivier nous expliquait que, quand on, je dis pour ceux qui écoutent sur Internet, il nous prêchait ce matin en nous disant que quelqu'un qui se tient au pied d'une montagne, il se sent tout petit, puis la montagne, il la voit immense. Mais s'il s'éloigne de la montagne, il se dit, bah, finalement, elle n'est pas si grande que ça, elle est à peu près à la même hauteur que moi, hein, la montagne, là, c'est... Ça dépend du point de vue. Et notre ami Nicodème, il avait un point de vue qui n'était pas bon, parce qu'il n'était pas tout prêt, parce qu'il n'était pas en communion avec la montagne, avec Jésus. Ce Nicodème ne perdra pas sa récompense, mais c'est dommage, parce que ce Nicodème, ce soir-là, il a entendu les plus belles paroles que Dieu a prononcées sur terre, mais il n'y a pas accordé foi. Ça le dérangeait trop. C'était trop contre sa religion, contre sa doctrine, contre sa conviction personnelle. Et la foi que Dieu cherche en vous, c'est une foi inconditionnelle. Rien n'a changé. Seigneur, si tu le dis, je le crois. Si je le vois écrit, je le crois. Et je veux agir en conséquence. Je veux confesser que je le crois avant même d'en recevoir la pleine révélation. Regardez l'histoire du christianisme, c'est ça. Je prendrai les baptistes, par exemple. Eh bien, ils sont toujours baptistes parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à la révélation qu'avaient reçue les pentecôtistes, c'est tout. Et puis, ça a été partout pareil. Et cela, c'est vrai pour tout. Pour tout. Pour les plus petites choses, comme pour les plus grandes. Croire que Jésus est un docteur envoyé de Dieu, c'est pas suffisant. C'est pourquoi Jésus n'écoute même pas la question qu'il veut poser. Croire que Jésus est un docteur envoyé de Dieu, mais c'est juste le début pour pouvoir s'approcher de Dieu. Sans être foudroyé sur place, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans être foudroyé sur place, à moins de passer par Jésus. On va lire un texte dans Hébreux 11, 6. Hébreux. Qu'est-ce qui se cache dans Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire dans son existence. Ça, c'est ce que Dieu demande à tout homme, toute femme. Et ensuite, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais attends, si on croit en lui et qu'on vient à lui comme ça, on n'est pas foudroyé, on est reçu par lui, nous voilà. Et puis ensuite, il faut non seulement croire qu'il existe, ça c'est le début, Mais ensuite, c'est pour accéder à sa présence, mais ensuite, c'est croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Réfléchissez un peu, ça signifie bien ce que ça veut dire. Ça veut dire toute notre vie, nous avons à le chercher. Non pas parce qu'on ne l'a pas trouvé, mais parce qu'on a tout à découvrir de lui. Je ne sais pas si vous vous êtes approché du Mont Blanc. Oh, c'est beau! On a eu du boulot pour arriver jusqu'au pied du Mont Blanc. Mais ça valait la peine, c'est beau. Bon, on prend la bagnole, on s'en va. Mais attends, vous ne connaissez rien du Mont Blanc. Hein. Il faut l'escalader, il faut aller dans tous les coins, les recoins. C'est immense, c'est grand. Tout à découvrir quand on s'approche de notre Dieu. Tout à découvrir dans le monde de l'esprit et le monde des esprits. Ça va bien au-delà de ce que connaît notre chair. Alors soyons humbles ce matin. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, tout ça, c'est encore la chair. Pour Dieu, c'est... Mais approchez-vous de Dieu. Croyez qu'il existe et croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que c'est le rémunérateur? Votre patron, c'est votre rémunérateur. C'est-à-dire, c'est celui qui vous paye. Mais on ne paye pas quelqu'un à ne rien faire. Vous devez agir par la foi. Et alors là, il va vous rémunérer. Là, il va commencer à résoudre vos problèmes. Là, il va vous éclairer. Il n'y a rien sans rien avec Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas tellement compliqué à comprendre. Nous avons été créés de la même chose que lui. Nous sommes créés à son image. Ben moi, sans rien, il n'y a rien. Hein. Ben je peux vous faire un don, voilà, pour... Mais... Quelque chose qui va jusque dans la vie éternelle, là, vous pouvez toujours... Si vous ne bougez pas, moi, je ne bouge pas. Hein. On est fait à l'image de Dieu et il faut comprendre cela. Il nous faut comprendre cela. Crois que Dieu existe, ça, c'est la base. Déjà, si tu n'y crois pas, ça ne vaut même pas la peine. Tu ne le respectes pas, tu l'insultes, tu es stupide. La Bible dit que c'est les insensés qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Puis ensuite, une fois que tu crois, que tu as décidé de croire, sans preuve, alors il se révèle. Et puis après... Ben, tu vas commencer à croire. Mais alors là, c'est jour après jour, et même des fois plusieurs fois par jour, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que c'est lui que tu dois chercher. C'est pas ton pognon. C'est lui que tu dois chercher. C'est pas ta santé. C'est lui que tu dois chercher. C'est pas ton confort. C'est lui que tu dois chercher. C'est pas ta guérison. C'est lui que tu dois chercher. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'espère que vous avez compris. Sinon, on va faire clignoter les lumières, un petit peu comme la lumière qui clignotait là-bas, qui vacillait, la lampe à huile. Et puis, je vais vous faire un joli sourire et puis je vais vous laisser partir. Parce qu'à un moment donné, ben, Jésus a dit, excuse-moi, j'ai du boulot encore. Et Nicodème m'a dit, je ne veux pas prendre tout ton temps. Merci de m'avoir accordé ces quelques instants. Et Jésus, mais c'est normal, c'est... C'est bien, votre maître, que Dieu te bénisse, au revoir, merci, oui, non, merci, oui, oui, à un autre, oui, à bientôt, oui, au revoir, il ne va pas foutre le camp, non, oui, au revoir, bye bye. C'est comme ça que ça se passe, avec Dieu, comme avec les hommes de Dieu, parce qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Jésus, aide-nous à bien saisir ces choses, afin que nous puissions progresser. Je te prie pour ceux qui résistent, afin qu'ils cassent barrage et qu'ils aillent de l'avant d'une façon spirituelle. Merci Jésus. Merci de nous aider à être un bon témoignage, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Amen.